Je vous invite à voir ensemble ce qu'est la grâce de Dieu, la grâce de Dieu dans nos vies. Comme leader du peuple d'Israël, dans les temps où Moïse était à la tête, aidé par Aaron, Dieu avait dit ceci. On regarde dans Nombre, chapitre 6, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que le Seigneur te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Amen. Dieu avait dit, en ce temps déjà, il avait dit, bénissez le peuple. Bénissez vous les uns les autres en vous souhaitant que la grâce de Dieu soit sur votre vie. C'est comme cela que Dieu nous bénira, en ce que nous souhaitons et nous appelons la grâce de Dieu sur les autres. Alors ça doit être important, la grâce de Dieu, pour que le Seigneur lui-même nous enseigne à le souhaiter entre nous. Et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous voyons que la notion de la grâce de Dieu, l'expérience de la grâce de Dieu au milieu du peuple, des croyants, des chrétiens, était d'une importance essentielle. On le lit maintenant dans le Nouveau Testament, dans Actes au chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur tous, sur toute l'Église. La grâce de Dieu, ce n'est pas une notion simplement théorique, mais elle est agissante et elle peut être remarquée. Quand Barnabas est arrivé dans la ville d'Antioche, parce qu'il avait entendu que le Seigneur visitait et qu'il y avait un grand réveil spirituel, il nous est dit que Barnabas, envoyé par le conseil des pasteurs de Jérusalem, arrivé là-bas, lorsqu'il eut vu la grâce de Dieu. Il voyait la grâce de Dieu dans l'expression, le comportement, le fruit que portaient les croyants, l'église locale d'Antioche. Et en voyant de ses yeux de chair la façon de que cette église vivait, que ses croyants se comportaient, il disait ça, c'est le résultat de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Quand il a vu la grâce de Dieu. Elle est tellement importante pour ces chrétiens des premiers temps qui nous donnent l'exemple que même quand justement Paul et Barnabas, à un moment donné, par la suite, ont été envoyés de cette église locale pour aller prêcher l'évangile et commencer l'ère de la mission de par le monde, eh bien, il nous est dit dans Actes chapitre 14, verset 26, quand de là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Donc cette église qui était gracieuse, allaient envoyer deux des leurs en leur disant, mais on vous recommande à la grâce de Dieu. Alors, définition de la grâce de Dieu. Le sens le plus commun, c'est la faveur non méritée de Dieu pour nous. La faveur. Il nous fait grâce. Il nous donne sa faveur. Ça, c'est le sens que nous connaissons le plus certainement. Nous étions pécheurs, dignes de la condamnation, mais Dieu nous a aimés. Il nous a pardonnés. Il nous a graciés. C'est un terme même juridique des tribunaux, des choses comme ça, hein, on gracie quelqu'un. Il ne mérite pas, mais on lui fait la faveur. Et toute notre vie, à chacun d'entre nous, démarre avec cette grâce de Dieu. Nous avons été sauvés. Mais il y a une autre partie de la grâce de Dieu. Ce n'est pas simplement lié au salut de notre âme, au moment où nous avons passé de la mort à la vie en nous repentant face à l'amour du Seigneur et en nous donnant à lui. Et là, il a exercé sa grâce et puis c'est fini. Non. La preuve, c'est que dans les versets que nous avons lus, ces personnes étaient déjà sauvées, mais ils se recommandaient à la grâce de Dieu. Donc, elle est encore beaucoup plus vaste que simplement liée à l'acte de notre salut, la grâce de Dieu. Donc, il y a une autre partie. Et cette autre partie, si nous pourrions définir, c'est la puissance de Dieu qui nous garde dans notre marche avec lui. C'est cette puissance qui nous fortifie et qui nous permet aussi d'agir et de vivre et de faire des œuvres et de porter du fruit qui sont les fruits des enfants de Dieu. La grâce salvatrice du Seigneur, la grâce fortifiante et sanctifiante dans notre marche quotidienne. Voilà ce que, globalement, elle recouvre. Quand nous lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 16, l'apôtre Paul dit ceci, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné sa grâce. Une consolation éternelle et une bonne espérance consolent vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. La grâce de Dieu, l'apôtre Paul dit ceci, elle vous accompagne. Elle a été manifestée en Jésus-Christ dès le démarrage. Et elle vous accompagne dans votre vie. C'est elle qui va vous permettre de porter de bonnes œuvres, de bonnes paroles, qui va vous affermir. La puissance de Dieu qui nous garde, qui nous fortifie et qui nous permet. On revient un instant sur le salut que le Seigneur nous a donné. Vous connaissez Éphésiens chapitre 2, verset 8-9. Hein? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, on a cru dans l'amour de Dieu. C'est ça, on n'a rien fait. On a cru simplement, parce que lui, il a tout fait. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Il ne nous doit rien. C'est un don, la grâce. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ce matin, et toujours, et durant toute notre vie, que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. En fait, même, on pourrait dire que cet amour et cette grâce de Dieu, elle s'est exprimée en premier lieu quand nous en avons pris conscience. Elle a démarré avec notre vie chrétienne au moment de notre salut et par la suite. Mais la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, Dieu voulait et l'a manifestée même avant cela, même avant que nous en prenions conscience. Quand il nous est dit dans Éphésiens 1, regardons ensemble, verset 4 à 7. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il avait ce désir pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire et de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alors, il avait envie. Avant la fondation du monde, il nous connaissait. Et ça, c'est un Dieu extraordinaire. Il n'y a rien qui ne lui échappe. Et il n'y a pas d'avenir ni de passé en quelque sorte. C'est le Seigneur qui a tout devant lui. Nous avançons avec le temps, mais lui, il est omniscient. Alors, avant même que nous soyons venus au monde, avant même cela, il a dit, je vais exercer ma grâce sur, on met notre nom sur, votre personne. Quand je comprends cela, je ne comprends pas, je n'arrive pas à mesurer cela. Ce n'est pas possible. Mais ça nous émerveille. Et on se dit, mais pourquoi Dieu fait cela? Pourquoi Dieu exerce une telle bonté sans limite à mon égard? Pourquoi sa grâce? Il nous le dira et nous le dira. Et encore, il aura l'éternité. Nous aurons l'éternité à sonder cela. Et nous n'aurons pas encore le temps suffisant pour comprendre cette grâce et cet amour de Dieu sans limite. Alléluia. Avant la fondation du monde. La grâce de Dieu, c'est cette puissance qui nous permet d'agir et de grandir dans notre marche chrétienne et dans les valeurs de Dieu, dans la sainteté. C'est par sa puissance que nous sommes transformés. Vous connaissez ce texte de 2 Corinthiens 5, 17, hein? En Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenue nouvelle. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, nous dit, croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez dans la grâce. Une autre version dit, progressez sans cesse dans la grâce. Avancez. Restez, nager dans cette grâce, avancer dans la vie, progresser. Toujours plus dans cette grâce du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous passer de cette faveur de Dieu, faveur constante, si Dieu nous n'était pas favorable à notre égard, si il attendait que la perfection en tout, ça ferait longtemps qu'il m'aurait abandonné sur le bord du chemin. Mais jour après jour, tandis que nous marchons avec le Seigneur et que nous progressons et nous grandissons dans notre vie chrétienne, malgré nos imperfections, mais tout en cherchant à lui ressembler, à grandir dans cette vie chrétienne. Heureusement que sa grâce patiente, son amour, comme des parents qui élèvent des enfants et qui font que petit à petit, ils deviennent des hommes et des femmes, et non plus des enfants matures au fur et à mesure, eh bien, ils exercent tout au long de la croissance cet amour, cette grâce qui ne rejette pas, qui accompagne et qui éduque, qui fortifie et qui permet à tout un chacun d'aller de l'avant dans la vie. Et c'est ainsi que Dieu nous accorde aussi sur le chemin sa grâce. Alors, pour résumer, on voit ces deux aspects de la grâce, du salut et de la marche, tout au long de la marche chrétienne, nous le voyons quand Paul l'enseigne dans Tite au chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça c'est quoi? C'est la grâce salvatrice. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Et là, Paul dit, voilà, c'est le salut à sa source dans la faveur, dans la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle est offerte, cette faveur, à tous les hommes. Elle a été manifestée. Où? Hein, à la croix, pour assurer notre salut. Mais là, ça ne s'arrête pas là. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartiennent, purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Alors, vous aurez l'occasion de relire tout ce passage qui nous donne la définition et l'action de la grâce de Dieu dans notre vie. Sans elle, eh bien, on ne pourra pas vivre à contre-courant dans ce siècle de péché. Sans elle, nous n'aurons pas la patience, la persévérance et l'endurance. Sans elle, nous ne pourrons pas, avec nos propres forces, être zélés pour les bonnes œuvres. Tout ce passage nous parle de l'importance de vivre, d'apprécier, de chérir cette bénédiction de la présence de Dieu en nous, avec nous, par sa grâce. L'apôtre Paul, vous le verrez dans tous ses épîtres, pratiquement je pourrais dire tous, commence que la grâce du Seigneur Jésus soit, etc. Ça fait partie de ses salutations. Il a saisi ce que Dieu avait dit à Moïse, à Aaron et au peuple d'Israël. Et maintenant, c'est encore plus la grâce en Jésus-Christ. Et il termine la majorité de ses épîtres par les mêmes paroles. Il insiste en disant que sans le Seigneur, sans sa grâce dans notre vie, nous ne pourrons pas, par nos forces, aller jusqu'au bout du voyage de la vie chrétienne. La grâce salutaire, la grâce sanctifiante, mise à la disposition de nous par amour du Seigneur. On voit quelques exemples simples de cela. Dans Jean, chapitre 5, verset 14, dans le chapitre 5, il nous est parlé de cet homme tellement malheureux, paralysé à la piscine de Bethesda. Quand il décrit sa vie, il dit « Je n'ai personne, je ne peux compter sur personne et je suis un cas désespéré. J'espérais même dans une action angélique, mais elle ne vient même pas en ma faveur. » Et il a rencontré Jésus. C'est Jésus qui est venu vers lui. C'est Jésus qui est venu vers lui. Et là, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Et sa vie a été bouleversée. Un mot de Jésus dans notre vie. Une parole de vie de sa part. Elle se transforme. Et cet homme, une deuxième rencontre, après sa guérison physique, il rencontre Jésus dans le temple. Et il nous est dit au verset 14, « Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. » Jésus lui donne la grâce du pardon de ses péchés. Ce n'est pas parce qu'on est malheureux sur la terre qu'on est sauvé. Hein? Il était malheureux, c'est vrai. Mais il y en a qui pensent qu'il y a une certaine théologie absolument pas biblique qui dit qu'on paye notre salut par nos souffrances. Non, alors on se mortifie, etc. Non, non, non. Donc lui, il était malheureux. Il avait besoin de la bénédiction du Seigneur. Mais comme tout homme, il a besoin du pardon de ses péchés. Ne pêche plus, va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Non seulement Jésus le bénit là, le sauve, mais il l'envoie sur le chemin de la vie avec cette grâce, avec une parole de puissance et d'accompagnement, et il dit, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus, et tu peux faire cela. C'est pareil quand on va dans Jean chapitre 8, versets 10 et 11, au sujet de cette prostituée qui a été amenée vers le Seigneur Jésus. Et tout le monde religieux était prêt à lui jeter le caillou de lapidation. Ils voulaient voir les uns les autres si Jésus allait le faire aussi. Mais Jésus a annoncé une parole qui les a dévoilés et se sont tous sentis coupables en tant que pécheurs et ils n'ont pas exercé sur cette femme cette lapidation. Et la Bible nous dit qu'au verset 10, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, mais où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a condamné. Elle répondit, non, Seigneur. Jésus aurait pu la condamner. Mais Jésus veut la sauver par grâce. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Donc dans ce texte, et comme dans celui du lépreux, et comme pour chacun d'entre nous, notre première rencontre a été au bénéfice de la grâce salutaire. Mais la continuation de notre vie va et encore au bénéfice de la grâce. Ne pêche plus, va. Je te communique non seulement le pardon et l'effacement de ce qui est de ta vie passée, mais je te communique aussi quelque chose qui est ma grâce pour que tu vives la nouvelle vie. Avec moi. Alléluia. la grâce salutaire, la grâce fortifiante, sanctifiante et victorieuse dans notre marche avec le Seigneur. Nous avons donné l'exemple de cet homme paralytique guéri, sauvé. Nous avons donné l'exemple de cette femme prostituée, délivrée d'une vie dépravée, pardonnée, sauvée et allant de l'avant. On regarde l'apôtre Paul comme exemple. Voilà ce qu'il nous donne comme témoignage de la grâce de Dieu dans l'expérience de sa vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 9, il dit ceci. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis même pas digne. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Nous connaissons son histoire. Nous connaissons comment cet homme était le pire ennemi de l'Église primitive. Il avait pris la tête d'un mouvement de persécution horrible contre les chrétiens qu'il violentait et qu'il mettait en prison. Alors il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Mais par la grâce de Dieu, je suis maintenant ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous parce qu'il était en train de parler du service de Dieu avec... En liaison avec d'autres qui servent le Seigneur et qui un peu le dénigrer et le critiquer et avaient des médisances, des calomnies contre lui. Il dit, loin de là, avec sa grâce, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voyez dans ce texte-là combien de fois il met en valeur dans sa vie l'action de la grâce de Dieu. J'étais misérable. Il m'a sauvé. Et je suis devenu chrétien. Ce que je suis maintenant, ce que je suis, ce que vous êtes, mes frères et mes sœurs, ce que je suis. Il dit, c'est par la grâce de Dieu. Et ce que je fais maintenant, c'est encore sa grâce. Parce que s'il n'y avait pas eu sa grâce, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Je ne serais même pas là. Hein? Elle est grande, la grâce de Dieu pour nous. Combien nous en avons besoin. C'est pas n'importe qui, l'apôtre Paul. C'est l'apôtre par excellence qu'on voit dans l'expansion de l'Évangile, dans les pages, et c'est inscrit dans le Nouveau Testament. On le voit, c'est un grand homme. Je lui laisserai vraiment ma place, Sylvien. Hein? On lui laisserait la place. Mais il dit, qui que nous soyons, que nous soyons vus comme étant peut-être le plus grand ou un homme fort dans la vie de Dieu, ou qu'on soit pas si considéré comme cela, mais on est tous pareils. Et quelque part même lui, et plus que jamais, il avait besoin de la grâce de Dieu. On le voit, et l'Église le savait, et lui je le savais, dans Actes chapitre 15, verset 40, quand tout au long de sa marche et de son service. Maintenant, on passe dans une autre étape où il continue, la vie change, les circonstances, le contexte de travail, les équipes de travail. Et maintenant, il nous est dit au verset 40 du chapitre 15, Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce de Dieu. Il n'y a pas une saison de ma vie où je ne peux me passer de la grâce de Dieu. Quelle est la saison dans laquelle tu passes en ce moment, mon frère, ma soeur? Paul a toutes ses étapes. Il parle du besoin de la grâce de Dieu. On regarde encore l'exemple de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11. Alors, quelles sont les circonstances de sa vie? Au verset 22. Bon, là encore, il est en train d'exprimer un petit peu quelques explications par rapport à son ministère en comparaison avec des mauvaises langues. Il dit, sont-ils hébreux? Moi aussi, je suis. Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis bien plus encore par les travaux, bien plus. Quand on lit comme cela, je vais continuer la lecture avec vous, mais imaginez les étapes, les circonstances de la vie de Paul, mais en y ajoutant le sens de la grâce dans ces étapes. Je le suis bien plus par les travaux, bien plus par les coups. Il en a reçu des coups. Bien plus par les emprisonnements, sans la grâce de Dieu. Premier emprisonnement, bouf. Je lâche tout. Hein? Les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins un. Il y a de quoi, hein? Physiquement, c'était défiant. Émotionnellement, c'était terrible de se sentir accusé, méprisé, insulté. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Sans la grâce de Dieu, quand on se sent trahi, quand on se sent abandonné, y a-t-il quelque chose comme cela que vous vivez en ce moment? Je ne sais pas. J'étais dans le travail et dans la peine. Exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ça, c'est son travail, son boulot, entre guillemets, hein, son appel. Mais sur votre lieu de travail, y a-t-il du stress? Dans votre famille, dans le rythme de la vie de famille, y a-t-il des pressions? Y a-t-il quelque chose qui pourrait vous laisser comme abattu et prêt à jeter l'éponge? Eh bien, Paul, il dit, j'en ai vécu des situations. Mais tout cela, j'ai pu tenir parce qu'au moment où, humainement parlant, on va craquer, je me tourne vers le Seigneur. Et je sais que sa grâce est avec moi, qu'il ne m'abandonne pas, qu'il est là. Et je trouve la force d'aller de l'avant, va dans ce mot du Seigneur qui nous envoie dans la vie. Je trouve la force. Alléluia. J'ai besoin de sa grâce. Dans le domaine physique aussi, dans le domaine émotionnel, il pouvait dire dans 2 Corinthiens chapitre 18, versets 8 et 9, quand il se sentait être la proie et l'attaque particulière du diable sur sa vie. Et là, la Bible nous parle, lui, il nous parle d'une écharde. Bon, sans préciser plus précisément ce qu'est cette écharde dans sa chair, il y a plusieurs écoles d'interprétation à ce sujet, mais bon, voilà, il avait quelque chose qui le bloquait dans sa vie et qui l'affligeait. Trois fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi cette écharde. Alors, trois fois, il a insisté. Et le Seigneur est celui qui délivre, n'est-ce pas? Il est le Dieu miraculeux. Il est le Dieu qui entend la prière et qui exauce. Il a entendu la prière. Mais là, il a répondu sur l'insistance de Paul jusqu'à ce que Paul comprenne la pensée du Seigneur. Il priait pour la délivrance. Et le Seigneur lui dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dans les limitations humaines. » Ça ne veut pas dire dans la faiblesse du péché et de la compromission. Vous comprenez le mot « faiblesse » dans ce point. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors moi, Paul, quand j'ai compris cela, je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses et non pas de mes qualités et de mes forces, mais je suis plus prêt à avouer mes limitations. Parce que que la puissance de Dieu repose sur moi, parce que quand je suis faible, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans mes limitations, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis limité, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, sous-entendu par grâce. Alléluia. Alléluia. C'est formidable de pouvoir s'appuyer comme cela sur le Seigneur. Alors voilà ce que Paul pouvait dire de la grâce agissante dans sa vie. Alors pour un petit peu arriver vers la fin, je voudrais dire que dans notre marche persévérante avec Dieu, nous rencontrons souvent des situations qui nous accablent. Notre réponse et notre confiance dans le Seigneur, notre obéissance à sa parole en dépit des circonstances et sa réponse pour nous, en retour à notre foi, c'est sa grâce, c'est sa puissance pour nous faire triompher dans chaque situation. Sa grâce, dans sa grâce, il y a le miraculeux. Et dans sa grâce, il y a le miraculeux aussi de pouvoir traverser les épreuves. Sa grâce, c'est la réponse de Dieu pour nous, en réponse à notre confiance, en réponse à notre foi et notre attachement envers et contre tout, en personne. Alors je termine avec deux promesses de la parole de Dieu. Deux promesses. Hébreux chapitre 4 verset 16 nous dit « Approchons-nous donc du trône avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » N'approchons plus d'un Dieu qui nous écrase. Nous sommes ses enfants. Notre vie est en règle avec le Seigneur. Et nous nous approchons maintenant d'un grand Seigneur. Il est en même temps un Père, mais en même temps, c'est un grand Seigneur assis toujours sur un trône. Et je m'approche de lui avec crainte respectueuse, dans un amour formidable. Mais je sais que c'est un trône de grâce. Et de ce trône de grâce, de cette personne gracieuse qu'est le Seigneur, je peux obtenir grâce pour être secouru dans tous mes besoins. Quelle belle promesse. Mais il y a quelque chose à faire. Approchons-nous. Croyons à cela. Venons toujours et toujours, en toutes circonstances, auprès du Seigneur. Et il nous promet que du trône de sa grâce, il nous donnera encore toute la force, le nécessaire pour aller de l'avant. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, 8. La deuxième promesse. L'apôtre Paul parle aux chrétiens et leur dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dans quel domaine avons-nous besoin de sa force, de son intervention? Sa grâce s'exprime dans tous les domaines. Il vous comblera. Vous vous rappelez tout à l'heure, on parle de la richesse de la grâce de Christ. Il est riche. Et même dans un verset, je l'ai marqué, mais on ne va pas le lire, mais il y a un verset qui parle qu'il s'est fait de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa grâce. Vous le trouverez. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez en abondance encore pour toute autre bonne œuvre. Si nous goûtons à sa grâce, c'est pour que nous aussi nous devenions des sources, des canaux de sa grâce auprès de ceux qui n'ont pas encore pris conscience de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Bénis pour bénir les autres. Alléluia. Qu'il en soit ainsi de notre vie. Qu'il en soit ainsi de notre Église. Qu'il en soit ainsi pour le week-end prochain, où chacun, nous allons chercher dans la semaine et dire, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais partager ta grâce avec qui je reçois tant. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et nous joignons en dernier verset à David qui nous dit dans ce célèbre psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas une partie seulement, pas seulement le dimanche. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. En ce moment, on est dans la maison provisoire, physique, le bâtiment qui nous rassemble. Nous sommes spirituellement le temple du Seigneur. Mais un jour, eh bien, on sera tous ensemble dans sa maison. Alléluia. J'habiterai dans sa maison. Maintenant, ici-bas, dans notre vie de pèlerinage, mais jusqu'à ce que nous soyons là-haut. Merci Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Amen. On va courber nos cœurs. On va remercier le Seigneur.